Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Merci de votre présence ce matin pour partager un petit moment avec celui que vous connaissez bien. Vous connaissez, j'imagine, beaucoup sa voix, puisqu'il était longtemps l'un des chroniqueurs de L'Orient-Coin, pensionnaire des grosses têtes version Philippe Pouvard pendant de longues années. Vous connaissez aussi son visage pour le voir à intervalles réguliers sur Paris Première pour la revue de presse. Et j'imagine aussi que vous connaissez son écriture, puisqu'il est un chroniqueur régulier de la montagne, notamment le dimanche, depuis 30 ans. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Monsieur Jacques Maillot. Bonjour, Jacques Maillot.
Bonjour à tous et merci d'être là, d'épeautrambiner, comme on dit.
Exactement. Et merci Jacques de vous être extrait quelques minutes de la Georges Brassens où vous rencontrez vos lecteurs depuis vendredi
Oui.
pour nous parler de ce livre que vous avez publié l'année dernière aux éditions de Boré, Pointe d'actu.
Oui.
Avant de venir sur son contenu et l'histoire, comment allez-vous? Comment se passe cette foire du livre pour vous et quels sont les comment avez-vous partagé ces quelques heures?
Écoutez, ça se passe très bien parce qu'on rencontre plein de gens, plein de lecteurs. Ça, c'est toujours très agréable parce que ça permet de mettre un visage, une tête sur les gens qui sont censés lire mes propos plus ou moins malveillants. Et donc, c'est toujours très agréable. Puis alors, Brive, c'est une ville très difficile. Il faut faire très attention parce qu'on peut maigrir très, très vite. C'est toujours un bonheur de revenir à Brive, puisque vous savez que à mes tout débuts, j'avais été engagé à la Charrette. C'est un souvenir très lointain, il y a presque 50 ans.
Oui, c'était
Et
hier.
c'était hier, par ce couple délicieux que vous m'avez permis de retrouver il y a quelques semaines, qui sont monsieur et madame Der. Et je suis depuis toujours resté très attaché à cette ville, où je compte surtout maintenant mon vieil ami Jean-Paul Escande, qui est venu prendre sa retraite ici et pour lequel j'ai la plus grande amitié.
Et vous êtes à Brive aujourd'hui pour parler de ce livre, à une période où également l'une de vos autres activités en tant que directeur général du Théâtre des Deux Ânes reprend également après quelques mois de pause.
Oui, 18 mois de fermeture, donc c'est un peu long. Et nous redémarrons à petits pas, puisque les gens reviennent au théâtre, mais lentement. J'espère que ça va être sûrement. Il a fallu aussi dérouiller le théâtre, parce qu'on s'aperçoit que quand les machines s'arrêtent, eh bien, vraiment, elles rouillent. Donc il faut toujours réviser un tas de choses. Et on s'en est rendu compte l'autre jour. On jouait au théâtre Jean Alary de Carcassonne. Et il y avait une équipe technique exceptionnelle. Et puis brutalement, la sono est tombée en rideau. Et ils m'ont dit, pourtant, on l'a vérifié il y a 4 jours. Mais je crois que les machines, c'est comme nous, quoi. Si on arrête de pédaler, on tombe. Hein.
Alors c'est un horaire de dimanche matin que vous connaissez bien, puisque
Oui?
c'était l'horaire de L'Orient-Coin, si ma mémoire est bonne.
Ah oui, c'était même plus tôt, c'était 9h30 le matin, de 9h30 à midi sur France Inter. Ça, c'est des grands souvenirs. L'Orient-Coin avec Pierre Caudou et Jean Garretto, les deux producteurs historiques de cette émission, à qui on doit aussi la création de FIP. Et puis après, Jean Garretto, grâce à Jean-Noël Jeannet, avait pris la direction de France Inter. Donc, c'est des souvenirs merveilleux avec des gens cultivés, très professionnels, très brillants. Ça, c'est vraiment pour moi l'époque charnière de mon parcours.
Et c'est un jour de la semaine que vous connaissez bien également, puisque c'est le dimanche aujourd'hui, le dimanche qui est le jour de parution de votre chronique dans les colonnes de la montagne, une chronique que vous publiez depuis bientôt 30 ans,
Oui.
avec une fidélité incroyable, puisque vous n'avez jamais raté un dimanche, 1300 chroniques quasiment en 30 ans.
Oui.
Et ce livre, Pointe d'actu, publié aux éditions de Boré, est, j'ai envie de dire, une synthèse, une la substantifique moelle de votre travail depuis 30 ans, une compilation.
Oui, c'est plus qu'une compilation. Je crois qu'on a fait un tri et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous y avez participé. On a pris les 1300 chroniques et on s'est dit ça fait beaucoup, il va falloir les classer. Alors on a décidé de les thématiser et on s'est partagé le butin. On a pris pratiquement 500 nique chacun à peu près 400, quoi, 450. Et on les a triées, on a estimé celles qui étaient les plus intéressantes et surtout celles qui étaient les moins démonétisées, qui restaient dans l'air du temps. Et on a fait cette sélection qui constitue, je pense, un très bon et drôle rétroviseur de 30 années d'actualité.
Alors, on y retrouve tout ce qui fait votre style, votre écriture, vos marottes, vos coups de cœur. Alors, bien sûr, la politique a une place de choix. Et dans cette période de campagne présidentielle, c'est l'occasion de poser un regard sur ce compagnonnage, j'ai envie de dire, long, que vous avez eu avec les présidents de la République. Vous en avez connu quelques-uns en fonction, j'ai envie de dire.
Oui, j'ai balbutié sous Pompidou et j'ai vraiment démarré mon parcours sous Valéry Giscard d'Estaing. Et je n'ai pas été déçu parce qu'on a eu quand même une belle brochette de grands présidents. Mais avec un déclin, c'est très net. D'abord physique, puisqu'on est quand même parti avec cette 5e République, avec Charles de Gaulle qui faisait 1m95. Et là, on en est à Emmanuel Macron qui a un petit peu remonté le niveau. Mais entre Sarkozy et François Hollande, on était tombé un peu bas, quoi, puisque le petit Sarkozy, il est à 1m67, 68, péniblement. Donc c'était le petit frère de Philippe Bouvard. Donc ça fait... Alors là, on est un peu remonté. J'ai vu que Emmanuel Macron faisait 1m74, je crois, ce qui est tout à fait honorable, puisque c'est ma taille. Donc, mais c'est vrai que y a la 5e République, c'est un peu ça. Donc il faut faire attention à la prochaine élection. Aussi bien par la taille, je pense, que par le mental. Il faut qu'on surveille notre choix.
Et de tous ces présidents que vous avez côtoyés, et lequel a été pour vous, j'ai envie de dire, le meilleur client ?
Alors, dans des registres très différents, il y en a eu beaucoup. Giscard a été le président qu'on connaît, très brillant, un peu condescendant, le choix. Alors, Giscard, c'était un personnage attachant, puisque dans les dernières années de sa vie, on était très liés, parce qu'il adorait venir au Théâtre des Deux Ânes. On l'avait reçu à l'oreille en coin. C'est lui qui avait innové en nous apportant un grand panier, comme vous pourriez le faire à Brive, avec toutes les nourritures terrestres que notre belle région comporte. Et il avait apporté le sénectaire, les jambons d'Auvergne, le 25%, ça joue, c'est moins bien, c'est un peu en dessous. Par contre, il avait oublié le tire-bouchon. Et je lui ai dit, vous voyez, c'est le problème des énarques, monsieur le président, c'est que ce sont des gens qui pensent à tout, mais sauf à l'angle pratique. Donc on est allé chercher un tire-bouchon dans le bureau de Jean-Noël Jeannet, qui était le président de Radio France, à qui il a dit, ah ben, j'ignorais que le président de Radio France avait des tire-bouchons dans son bureau. Et c'était un personnage très attachant, avec qui on a eu de très bons liens. Et pour l'anecdote... un matin, il avait téléphoné à la présidente de Radio France, qui était Jacqueline Baudrier, en disant « Qu'est-ce que c'est que ces journalistes qui prennent parti contre moi ?» Et alors, il avait écouté ça en se rasant le matin, je pense, ou quelque chose comme ça, et il avait confondu le bulletin d'information de 10h avec l'oreille en coin. On était déjà reparti sur l'oreille en coin, et Boris Sorg avait fait un papier sur des propos désobligeants qu'avait dû tenir Georges Marchais, je crois, à l'encontre de Giscard, qui avait dit « c'est le petit télégraphiste de Varsovie ». Et ça avait fort déplu à Giscard. Alors il avait mobilisé tout le monde pour savoir d'où venait ce bulletin d'information. Et puis après maintes recherches, on s'est aperçu que c'était plus l'info, c'était l'oreille en coin. Il a dit « alors autant pour moi, je me trompe d'heure dès le matin, c'est peut-être dû au changement d'heure été-hiver ». Voilà. Et ça s'est terminé comme ça, mais je me rappelle que ça avait fait grand bruit dans la maison de la radio.
Et vous êtes aujourd'hui en Corrèze avec le président corrézien. Quels ont été vos rapports avec... commençons par le premier, par Jacques Chirac.
Ah, Jacques Chirac, un homme exceptionnel, très chaleureux. J'ai un souvenir ému où il était au creux de la vague. Vous savez, quand tout le monde, Balladur était au sommet des sondages, et il avait remis la grand croix d'officier de la Légion d'honneur à Philippe Ragneau, qui était ce grand compagnon de la Libération, et il n'y avait pas grand monde. Et il nous a fait un discours exceptionnel, je me rappelle, sur les gaullistes de gauche et sur le côté social du général. C'était éblouissant. Alors quand on disait Chirac, tout ça, il est fait pour la foire aux bestiaux du... Pas du tout, c'était une énorme culture. Et il nous avait fait un discours, moi, qui m'avait saisi, sur René Capitan, enfin toute cette tradition gaullienne du social. Et il y avait Alain Perfitte, qui était notre ministre de tutelle, à l'époque, sous Giscard et sous le général, bien sûr. Et j'avais dit à Alain Perfitte, il est quand même mal parti, notre maire de Paris. Il m'a dit, faites-lui confiance, vous allez voir, quand il va rentrer en campagne, ça va remonter. Et on a vu le résultat, puis ça a tellement remonté qu'il a été élu. Et après, j'ai compris pourquoi. Il avait ce contact extrêmement chaleureux. Je me rappelle être venu assister au concert de Johnny Hallyday à Meymac, à l'initiative de Bernadette, et je l'ai vu sortir de sa voiture comme une fusée en tapant sur l'épaule de ses copains, dont le fameux éleveur de porc, son camarade, et qui disait « Alors, tes cochons, comment ils se portent ?» Et c'était ce côté chaleureux était irremplaçable.
Avec François Hollande aussi, vous avez une relation assez suivie, puisque vous aviez... déjà, il y a une vingtaine d'années, il apparaissait dans vos chroniques.
Ah oui, bah c'est un personnage. Ouais. C'est un personnage. D'abord, il a un physique, indiscutablement. Il est entre Georges Clooney et Richard Gere. Mais il est très drôle. Il a beaucoup d'esprit. C'est lui, vous savez, quand il est arrivé à Rodez pour inaugurer l'exposition Soulages, il pleuvait, comme toujours. Évidemment, le maire de Rodez lui a dit « Alors, monsieur le président, avec vous, c'est une habitude. À chaque fois que vous venez quelque part, il pleut. » Et il a eu cette réplique extraordinaire. Il a dit « Mais est-ce que vous savez que gouverner, c'est pleuvoir ?» C'est magnifique, hein, c'est un mot magnifique. Et alors, hier, il nous a fait mentir parce qu'il est arrivé par grand soleil. Donc, je me dis peut-être qu'il évolue, voilà. Depuis qu'il voyage au royaume de Lilliput, il est peut-être en train de changer. Voilà.
Et justement, ce personnel politique, vous ne l'épargnez pas. Alors, quand on reprend les chroniques publiées dans votre livre, on retrouve des formules assassines. Hein. Valéry Giscard d'Estaing, bourreau des cœurs. Hollande, vous l'aviez baptisé Pépère Ier. DSK, oui. Casanova de la finance. Macron, le petit prince d'Amiens. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère.
Non, mais j'aime bien leur trouver comme ça une définition assez courte. Ça, c'est dans la tradition chansonnière. C'est Jean Rigaud qui m'avait appris ça. Et bien, il dit qu'il faudra toujours que tu essaies de trouver des formules. Et lui, il en avait une très drôle pour Jean-Pierre Soisson, mon vieux camarade Soisson, qui a été, vous savez, de tous les régimes. Il a été ministre de Giscard, ce qui ne l'a pas empêché après d'être ministre de Mitterrand. Enfin, un homme ouvert, quoi. Et Jean Rigaud l'appelait Flipper le Dauphin. Parce que youp, c'était voilà, et je trouvais que c'est une belle image et ça avait toujours resté dans ma façon de travailler.
Dans cette campagne électorale qui démarre et qui va nous occuper quelques mois, est-ce que vous avez déjà vous un regard? Est-ce que pour vous votre regard de chansonnier, est-ce que ça annonce comme un bon cru?
Oh, je pense, aussi bien par le haut que par le bas. Parce qu'évidemment, bon, on voit bien qui va caracoler en tête à peu près. Hein. On va pas, je pense qu'il n'y aura pas une surprise énorme. Mais par contre, les débats risquent de nous apporter beaucoup de matière. Comme on nous dit toujours, vous avez matière. C'est vrai que là, il y en a beaucoup. Bon, on a vu les démarrages fulgurants de la maire de Paris qui nous a sorti quelques trucs très intéressants, comme le doublement des salaires des fonctionnaires, dont aussitôt même Jean-Luc Mélenchon a dit « Ah non, ça c'est pas possible, ça on peut pas le faire ». Donc elle va quand même très loin, je veux dire, si elle arrive à doubler Mélenchon dans la surenchère, là, il faut s'attendre au meilleur pour nous, au pire pour vous.
Hein. Nos lecteurs le savent, et c'est une de vos préférées, Anne Hidalgo, de la période actuelle. Vous l'avez croisée hier dans l'enceinte de la Foire du Livre ?
Non, parce qu'elle a été cantonnée à son stand, et moi j'ai été aussi cantonné au mien. Et alors moi, j'avais beaucoup de monde. Et j'ai remarqué qu'elle avait, deux ou trois personnes. Donc je me suis dit, finalement, elle a plus de lecteurs que d'électeurs. Mais bon, je la connais depuis tellement longtemps, puisque c'est son deuxième mandat à Paris, et on apprécie évidemment le travail phénoménal qu'elle a fait. Vous avez vu comme Paris est devenu joli, propre, dégagé, on circule merveilleusement bien, on peut monter jusqu'à 30 km/h, ce qui est phénoménal. Donc on sent la réussite poindre, on sent que ça va être grandiose.
Et oui, c'est ça, c'est le résident parisien qui parle.
Oui, parce que je dis toujours qu'on a subi le Covid pendant 18 mois pratiquement, et qui est un virus chinois. Et je dis toujours que c'est quand même lamentable qu'on soit obligé d'aller chercher nos virus en Chine, alors qu'on a un vrai savoir-faire en France. Sur le plan viral, on a inventé, par exemple, à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville, le virus de la dengue, et il marche très bien. Il fonctionne, il se répand là à travers la France. Donc on a un savoir-faire, nos labos sont excellents. Alors cessons d'aller chercher la matière première en Chine. Vive la France.
Au fil de ces 30 ans, on voit qu'il y a quelques, effectivement, personnalités politiques que vous avez plus ou moins éreintées. On cite Annie Hidalgo. En son temps, Martine Aubry aussi avait, j'ai envie de dire, pris cher.
Ah ben, la dame des 35 heures, oui. Ah ben, ça, il faut dire que grâce à elle, on a les restaurants qui sont ouverts le lundi, le dimanche. Enfin, tout est ouvert. Et surtout, on a un fonctionnement hospitalier admirable. C'est vrai que les 35 heures ont développé les conditions d'accès à l'hôpital de façon bénéfique. Et c'est vrai que Martine Aubry, la fameuse, donc, avec sa loi sur les 35 heures, nous a apporté beaucoup parce qu'elle elle aussi était dans la surenchère. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir parce que j'ai appris par certains camarades qui connaissent bien les allées du pouvoir que cette loi sur les 35 heures lui avait été soufflée par devinez qui ? Par Dominique Strauss-Kahn. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre Dominique et Martine ? Ça mériterait un nouvel album, Martine au Sofitel.
Autre personnalité, donc on l'évoquait tout à l'heure, vous avez peut-être croisé lui dans l'enceinte de la foire, François Hollande. J'ai retrouvé ces mots que vous aviez prononcés quand vous l'aviez accueilli en 91 à l'Oreille en Coin. On percevait déjà chez cet homme malicieux des qualités d'intermittent. C'est quand même...
Oui, parce qu'il est... On l'a encore vu hier. C'est un homme qui est brillant, hein, François Hollande. Tout le monde sait qu'il est, à la fois drôle, il a l'esprit très vif. Oui, on sent que pour lui, faire de la politique, c'est bien. Mais il n'est pas accro, quoi. D'ailleurs, quand il a vu que c'était plus possible, il n'a pas forcé la main pour se représenter. Je crois qu'il a un petit côté comme ça, oui, un peu intermittent. Je laisse passer le truc, je reviendrai peut-être. Je crois que, je ne vais pas dire dilettante, mais un peu quand même, quoi.
Dans la viennoiserie aussi, vous le voyez à un moment donné.
Oui, parce qu'il se fait... C'est lui qui a lancé quand même le premier, la livraison des viennoiseries en scooter. On avait déjà les pizzas, maintenant on a les croissants, les brioches. Je crois que le service à la personne se développe terriblement.
Parmi l'ensemble des chroniques qui sont réunies dans le livre Point d'actu, beaucoup sont, même si elles ont 20, 25 ans pour certaines, elles sont encore... bigrement d'actualité.
Oui.
C'est justement, on évoquait l'ambiance unique des campagnes électorales. Je reprends ces quelques lignes d'une chronique parue en 2017 dans La Montagne, qui décrivait cette ambiance à l'heure où les sites de rencontres foisonnent. 47 millions de Français s'apprêtent à choisir l'élu de leur cœur. L'offre est vaste, les prétendants nombreux, beaucoup comptent fleurettes et promettent merveilles. L'un d'entre eux nous promet même la lune, avec Mars en option et plus si affinité. Un autre est même désarmant de naïveté. On a l'impression que cette chronique, qui a quelques années, pourrait être écrite aujourd'hui. Finalement, rien ne change.
Non, parce qu'il y a toujours la même démarche. Il y a une sorte de rituel électoral qui ne fait que s'amplifier à la faveur des réseaux sociaux et surtout des chaînes d'information en continu. Et finalement, c'est un peu la course à l'échalote. C'est la surenchère verbale, c'est la surenchère dans les promesses de campagne qui sont rarement tenues. D'ailleurs, c'est Jacques Chirac, notre cher compatriote Jacques Chirac, qui disait « Les promesses ne valent que pour ceux qui y croient ». Et je crois que C'est un peu ça. Donc, rien ne change. Et quand on a élaboré ce livre, rappelez que Florence Sultan, qui est la directrice des éditions de Boret, nous avait fait remarquer que j'avais fait ma première chronique sur la réforme des retraites en 1993. J'en ai fait deux depuis et je vais pouvoir en faire une autre puisqu'elle n'est toujours pas faite, cette fameuse réforme. Donc, 30 ans. Hein. C'est pour ça que en exergue de ce livre, j'ai dit que l'actualité avait tendance à bégayer.
Elle bégaye, effectivement. On évoquait l'ambiance des campagnes électorales. Et une autre chronique également qui s'intitule « Le parfait candidat », elle est écrite en décembre 1994. Où vous disiez « Si l'on devait dessiner le profil psychologique idéal du parfait candidat à la prochaine présidentielle, il serait ainsi. Bien que vieux routier des méandres politiques, le parfait candidat devrait avoir un petit air providentiel primeur. Sans être fortuit, il serait presque inattendu. Il sera un homme d'expérience, mais si possible, n'ayant rien fait ou très peu. » Là aussi, vous pourriez être conseiller en stratégie politique aujourd'hui.
Oui, parce que le privilège d'avoir rien fait ou pratiquement rien, ça évite les casseroles, naturellement. Donc, c'est un avantage. On ne peut rien vous reprocher. Et je pense que les profils ne changent guère, finalement. Et on a vu le nombre de gens qui ont été éliminés. On parlait justement du Casanova qui a été éliminé pour des pratiques parce qu'il avait un passé un peu lourd d'ailleurs, un peu chargé. Mais donc je pense qu'un homme neuf, et c'est ce qui a grandement favorisé, je pense, l'accès d'Emmanuel Macron sur la plus haute marche du podium.
Et justement, au niveau dans les choses qui ont évolué, vous avez un regard particulier sur le traitement que font les médias des campagnes électorales. Il y a l'arrivée des chaînes d'information continue. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un élément, par contre, nouveau par rapport à ces dernières années.
Oui, d'abord, ça a beaucoup changé les choses. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure, je pense que les chaînes d'information continue qui sont en boucle ont tendance à mettre l'esprit des téléspectateurs et donc des citoyens en boucle, ce qui est quand même un peu ennuyeux. Parce qu'avant, on avait de l'info avec ces fameux bulletins dont on parlait à des heures bien précises à la télévision et à la radio. Mais on n'était pas sans arrêt en train de matraquer les mêmes infos répétitives. Et aujourd'hui,
c'est... Même si sur chez Chen, il y a des grands spécialistes.
Ah ben, il y a des spécialistes énormes parce qu'ils ont des consultants. Alors, c'est d'ailleurs l'objet de ma chronique ce matin,
du jour
dans la montagne, où on a ces fameux médecins. C'est vrai qu'on n'a plus de médecins en France, sauf à la télévision. Alors, si vous cherchez un médecin, il faut tout de suite appeler BFM TV ou CNews. Ils sont là. Donc, moi, maintenant, je vais me faire soigner à CNews ou à LCI. Vous allez dans un couloir, vous poussez une porte, vous êtes à peu près sûr de tomber sur un toubib qui va vous raconter le contraire de ce que son confrère a dit il y a 10 minutes plus tôt.
Mais vous terminez d'ailleurs votre chronique du jour. Un médecin, chercheur, démarre sa carrière dans le Lancet et la termine dans Closer.
C'est ça, parce que comme ils veulent être connus, quand la notoriété prend le pas sur le professionnalisme et le diagnostic, évidemment, on quitte le domaine purement médical qui est illustré par cette fameuse revue de référence qu'est le Lancet pour aller dans la presse People, Voici, Closer, Gala, etc. Donc ces chaînes d'infos en continu sont un peu inquiétantes.
Mais il y a les envoyés spéciaux quand même qui sont devant les ministères qui apportent
Il y a des gens brillants. Parce que je le dis toujours, l'intérêt des chaînes d'infos en continu, c'est que dès qu'il ne se passe rien, on le sait pratiquement tout de suite. Et ça, c'est très important. Et ils ont l'art de vous parler de rien. Ça, c'est fabuleux. C'est le boulanger qui vous dit, vous avez vu mon croissant ? Je ne le vois pas. Et il est là, vous voyez, il est là, il est formidable. Et eux, ils font ça. C'est-à-dire que dès le matin, ils attaquent très tôt. Vous savez, ils sont en direct. Hein, là, ils sont réveillés déjà depuis 6 heures. Et ils attaquent en disant, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct du ministère du Travail où le ministre du Travail devrait annoncer une réforme très importante pour les Français. Mais nous ne savons pas s'il va l'annoncer, à moins qu'il reporte son annonce. Mais peut-être que sans doute il l'annoncera comme ça a été prévu, mais il y a eu un démenti au dernier moment, mais ça pourrait changer d'ici là. Nous sommes donc en direct depuis le ministère du Travail, nous sommes devant la porte du ministère du Travail, vous la voyez en gros plan puisqu'elle est sur l'écran, donc elle est entrouverte, la porte du ministère du Travail. Alors est-ce qu'elle va s'ouvrir ou se fermer? On n'en sait rien, Parce que, alors heureusement, pour nous expliquer ce qui pourrait se passer, nous avons avec nous un spécialiste des portes entrouvertes, Jean-Michel Véroux, bonjour. Alors on voit un type qui est à peine coiffé parce qu'il tombe du lit, qui fait oui, bonjour à tous, c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel? Bah, écoutez, c'est difficile à dire parce que vous savez, une porte entrouverte, elle peut soit s'ouvrir, soit se fermer. Bah évidemment, hein, Jean-Michel, c'est sûr. Alors est-ce qu'elle va s'ouvrir ou se fermer? Je peux pas vous le dire parce que il faudrait savoir qui est derrière la porte, mais on ne le sait pas. Bon, alors le pire, ça serait un courant d'air parce que là, ça claque la porte et là, elle est fermée. Bon, très bien, Jean-Michel, merci beaucoup pour cette analyse. On va maintenant aller en direct puisque nous avons un envoyé spécial qui est devant le ministère. Est-ce que Jean-Michel Targette, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Et Jean-Michel fait rien du tout. Je suis là depuis une heure, il se passe rien. Et l'autre en studio lui dit merci Jean-Michel pour ces précieuses informations. Donc on dit on a bien fait de regarder. C'est ça les chaînes d'info, on continue.
Mais déjà en 95, vous éreintiez le traitement médiatique. Et je me souviens de ces quelques lignes d'une de vos chroniques où vous tapiez sur les hauts dignitaires de la religion catholique qui viennent analyser, expliquer, soupeser la situation. Ces gens-là sont entre eux comme les Ewing dans leur ranch. Ils sont la grande famille du microcosme qui fait semblant de s'écharper. Cette chronique pourrait être aussi publiée aujourd'hui.
Oui, absolument. Parce
rien ne change.
Rien ne change parce qu'en plus, on a les commentateurs politiques très spécialistes qui sont dans le pléonasme permanent. C'est-à-dire que là, mardi prochain, Emmanuel Macron va sans doute nous annoncer qu'il va falloir qu'on fasse une troisième dose ou une je ne sais quoi, un truc comme ça. Et derrière, on va faire appel à un Alain Duhamel, je ne vais pas dire quelconque, parce qu'il est tout sauf quelconque, notre ami Alain. Mais donc à ce genre de personnage, il va dire, alors, que nous a dit le président? Parce qu'on n'est pas censé avoir compris ce qu'il nous avait dit. Et là, il va vous dire, normalement, il va falloir qu'on fasse une troisième dose. On ne savait pas, on n'avait pas remarqué. C'est très étonnant. Donc on est dans le pléonasme, dans on bétifie, quoi. C'est-à-dire que même en cours moyen, première année, chez les frères des églises catholiques à Rion, je pense qu'on était déjà plus évolués, quoi.
Alors la politique n'est pas le seul fil rouge de vos chroniques. Vous en avez évoqué tout à l'heure, chroniqué à nombreuses reprises les mouvements sociaux et les grèves qui ont accompagné les tentatives de réforme, notamment la réforme des retraites, les 35 heures, la réforme de l'hôpital. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé également à ces mouvements-là?
Alors, moi, j'ai été très surpris parce que qui manifeste d'habitude, on le sait, en général, c'est les ouvriers. Mais malheureusement, il n'y a plus d'ouvriers en France puisqu'il y a des techniciens maintenant et les ouvriers sont montés d'un cran. Donc, c'est les gens qui ont des difficultés dans la vie. Donc, c'est les manifs CGT avec des gens qui défilent, qui vont à la manif. Alors que quand on a vu apparaître les manifs de notaires, il y a eu des manifs de notaires, c'est formidable. Alors, ils faisaient passer la surface corrigée, à mon avis, les trucs avant. Puis, il y a eu des manifs de pharmaciens qui sont arrivés. Et c'était des manifs chics, vous voyez. Ils étaient bien sapés, quoi. Il y avait du sac Vuitton, il y avait du sac machin, il y avait des belles chaussures à pampilles, etc. Moi, je me disais, c'est de la manif chicos, on ne peut plus les faire défiler entre Bastille, Nation, République, c'est trop populaire pour eux. Et je m'étais dit, il faut qu'on les fasse défiler avenue Mozart, dans le 16e arrondissement, au Trocadéro. Et finalement, j'avais vu juste, puisque rappelez-vous, la dernière grande manifestation autour de François Fillon, c'était au Trocadéro. Donc j'avais anticipé un peu le truc, quoi. Mais je me disais, c'est tellement rigolo de voir ces gens propres sur eux. Manifester, on n'est pas habitué. Hein. Moi, mon grand-père était mineur à Saint-Éloi-les-Mines. Quand ils défilaient, ils étaient en bleu de travail, quoi, avec le casque, etc. Donc, il y a une évolution terrible. Au train, au vent, les choses. Je pense que bientôt, on verra peut-être défiler Bernard Arnault, Vincent Bolloré. On ne sait pas.
Yannick Bolloré qui était là hier.
Qui était là, oui. Donc, ce sera des manifs qui auront de la tenue, quand même.
Vous en évoquez là aussi quelques-unes. Les professions libérales ne sont pas à l'honneur toujours dans vos chroniques. Vous avez rencontré, nous étions ensemble jeudi à Guéret, où vous avez rencontré des médecins, mais malgré tout, vous, les pharmaciens, etc., dans vos chroniques sont rarement mis à l'honneur.
Ça dépend. Le pharmacien, il y a un rapport de confiance avec eux. Mais il y a deux sortes de pharmaciens maintenant. Il y a le vieil apothicaire qui connaît tout, qui sait, qui veut, si vous allez cueillir des champignons, qui va vous dire attention, là vous avez tout ce qu'il faut pour empoisonner la belle-mère. Bon, d'accord, il faut faire attention. Mais il y a aussi maintenant le pharmacien un peu mercantile, vous savez. Et moi, j'ai un pharmacien à Paris qui me fait beaucoup rire, qui est un vieux copain, qui s'appelle Philippe Benfredge, et qui, quand je vais lui dire, il fait « Alors, Jacques, en ce moment, je fais une promotion sur le Doliprane. Je peux t'avoir 50% sur le Doliprane. Profites-en » Et ça, je trouve ça rigolo, mais j'aime bien, finalement, on a grand besoin de ces gens-là, quoi.
Dans les professions que vous balayez, toujours avec ces bons mots et cette écriture qui est la vôtre, l'agriculture avec a suivi aussi différentes évolutions. Vous aviez inventé le concept de politique non agricole commune et vous fustigiez justement dans cette chronique la manière dont les éleveurs étaient rémunérés. L'essentiel du travail dans ce type de non-élevage est sans doute de tenir un inventaire précis du nombre d'animaux que l'on n'élève pas.
Mais oui, parce que ça, c'est venu, vous savez, du scandale en Corse, puisque les agriculteurs touchent une subvention par tête de bétail. D'ailleurs, je crois que les énarques ne procèdent pas comme ça. Ils comptent le nombre de pattes et après, ils les divisent par quatre. Vous voyez, et donc, les éleveurs corses touchaient des subventions pour des animaux qui n'existaient pas. Et c'est pour ça que je disais toujours à mes copains corses, parce que je ne sais pas si vous avez circulé à travers la Corse, mais les vaches, comme elles ont des pâturages qui n'ont rien à voir avec ceux de la Corrèze, elles sont un peu maigrelettes. On est loin de la Limousine. Et donc, c'est des vaches un peu squelettiques. Et je leur disais, elles sont devenues tellement squelettiques qu'on ne les voit plus, mais vous touchez les subventions qui vont avec. Voilà.
C'est ça. Vous êtes également un fervent défenseur, bien sûr, de votre Auvergne natale, mais au-delà de ça, on dirait aujourd'hui dans une campagne électorale, on dirait des territoires. Mais vous dites plutôt le terroir, c'est ça ?
Ah oui, je préfère le terroir parce que les territoires, bon, c'est un terme. Il y a eu l'aménagement du territoire qui était cette pratique gaulliste très très répandue, dont le dernier ministre a été Charles Pasqua. Alors les territoires, je trouve que c'est très impersonnel, c'est presque un terme de technocrate, alors que le terroir, ça sent vraiment la glaise, et je crois qu'il faut garder cet esprit qu'on a tous d'aimer nos régions originelles. Moi, je suis très attaché à l'Auvergne, et je suis très fier d'être auvergnat, et je crois que tout le monde en est là. On parlait des Corses, ils sont très fiers d'être Corses, ils ont raison. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est la tradition française et on y découvre des petites pépites, quoi.
Donc l'Auvergne bénéficie d'un chapitre à part entière dans ce livre. Dans les manifestations qui irriguent les territoires ou les régions l'été, il y a le Tour de France cycliste qui est un repère assez attendu en Auvergne, en Limousin, mais aussi un petit peu partout, mais pas toujours par vous.
Ben, le Tour de France est assez rigolo puisqu'on sait que les coureurs ont arrêté de se doper depuis des années. Et vous avez remarqué que moins ils se dopent, plus ils vont vite. Ce qui veut dire que les produits qu'on leur faisait prendre il y a une quinzaine d'années étaient des cochonneries, ça valait rien du tout. Alors que depuis qu'ils roulent à l'eau de Volvic, ils sont magnifiques. Vous avez vu que cette année, les coureurs du Tour de France, on leur a fait monter le Ventoux deux fois dans la même étape. Donc je me dis, s'ils continuent à boire de l'eau de Volvic, de la Vichy, un peu de Badois, un petit coup d'Evian et par-dessus un coup de Vittel, ils vont nous faire le Ventoux trois fois dans la journée. Donc c'est rassurant. Et alors je disais, mais ça vient d'où ? Il me dit, parce que c'est la qualité de l'eau. Et je dis, il me dit, l'eau, tu sais que ça fait pousser, la preuve. L'autre jour, on a un coureur du Tour de France qui s'est arrêté faire pipi devant chez nous. Deux heures après, l'herbe était haute comme ça. Donc,
Dans ce livre, pardon pour le public, l'ouvrage est un petit peu loin, mais il est également illustré de magnifiques dessins de Frédéric Deligne.
Ah oui, c'est un grand dessinateur, Frédéric. Vous avez amplement raison de parler de notre ami Frédéric, parce que j'ai tenu absolument à ce que ce soit lui qui illustre ce livre. D'abord parce qu'on partage la même page. La dernière page de la montagne le dimanche, et il a un talent fou. Il a, c'est que les dessinateurs, ils ont une force par rapport à nous. C'est ce que me disait mon copain Jean Ferré du Figaro. Il disait, un dessinateur, en trois coups de crayon, il arrive à raconter ce que vous mettez en 30 lignes, vous les chroniqueurs. Donc c'est une puissance, le dessin de deux lignes, c'est magnifique.
Alors justement, celui-ci, sur le lié au Tour de France,
oui.
Il est assez remarquable parce qu'on voit un cycliste effectivement gonflé aux produits visiblement interdits et avec une personne à côté. Il va falloir qu'on diminue les doses ou alors qu'on file aussi des anabolisants à ton vélo. Et c'est un formidable rebond à vos chroniques.
Ah oui, parce que moi j'ai découvert des trucs, je crois que je vous en ai parlé l'autre jour. À une époque de ma vie, j'avais des petits problèmes de sinus et l'otorino qui me soignait m'avait prescrit un truc qui s'appelait la biphédrine aqueuse. Alors la biphédrine, on allait chercher ça chez le pharmacien tranquillement. Puis un jour, j'arrive chez le pharmacien de Châtel-Guyon. Qui est une copine de faculté et de lycée, et je lui dis, est-ce que tu peux me donner un flacon de biphédrine? Elle me dit, pourquoi tu veux refaire du vélo? Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce que d'abord, c'est sur prescription, et c'est considéré maintenant comme dopage. Alors, j'ai compris que c'était un peu comme la ventoline, c'est-à-dire que ça vous ouvre les voies respiratoires et ça vous permet d'avoir une capacité pulmonaire bien supérieure à la moyenne. Et donc, ça a été classé produit dopant. Donc, j'ai jamais su que pendant des années, j'avais utilisé un produit dopant. Malheureusement, j'avais arrêté le vélo. Et ça, c'est très dommage parce que je pense que là, j'aurais fait le Ventoux 4 fois dans la journée. Et le Puy-de-Dôme n'a qu'à bien se tenir.
Et vous validez donc totalement une des formules que vous aviez utilisées dans une chronique. Le Tour de France est devenu une sorte de sanatorium ambulant qui permet à des sportifs handicapés de la plèvre de vivre comme tout le monde.
Oui, et c'est pour ça que je préconisais qu'on fasse l'arrivée à la Bourboule puisqu'on soigne les voies respiratoires. Donc, et il serait ravi, ça relancerait un peu notre chère station de la Bourboule.
Dans les éléments réguliers d'écriture, alors vous revenez sur les épisodes d'été de canicule, où on se rend compte chaque année qu'on a l'impression d'avoir la canicule du siècle, mais si on lit vos chroniques, il y a eu des canicules tous les 2 ans, finalement.
Ben oui, ben ça c'est le propre de nos agriculteurs, vous savez, c'est pour ça qu'on les aime, parce que quand il fait chaud, c'est sec, quand il pleut, c'est humide et ça pourrit, et quand on est entre les deux, j'ai dit, alors là ça va, t'as un peu de pluie en ce moment, oui mais alors si tu veux, Jacques, pas assez, il nous en faudrait un petit peu plus, alors... Pour peu qu'il pleuve beaucoup la semaine suivante, si ça y est, c'est bon. Ben, il dit que ça commence à s'abîmer. Hein. C'est pour ça, j'adore ça. C'est le paysan de Fernand Reynaud. Hein. C'est inusable. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle très bien de la canicule. Et là, on parlait, vous savez, de l'effet pluviométrique de François Hollande. Mais Jacques Chirac était ministre de Jacques Chirac. Jacques Chirac était ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et il s'est tapé sans doute la première vraie canicule. De l'histoire des canicules, ça devait être en 76 ou 17, je crois. 76, hein, c'est ça. Et je me rappelle qu'après, il y avait eu une récidive et je me disais, Chirac, à chaque fois, il nous amène la canicule. Il y avait eu une récidive après, quand il, lui, était président de la République. Et je disais, finalement, avec Chirac, ça sèche, quoi. Donc, mais c'est, malheureusement, il y a un bonhomme qui a écrit un bouquin formidable sur le climat qui s'appelle Le Roi, la Durie. Et il vous raconte très bien que déjà, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait des canicules bien pires que celles qu'on a connues. Donc on est un peu en train de redécouvrir la roue là-dessus. Je pense que ce n'est pas si nouveau que ça.
Du climat à la protection de l'environnement, il n'y a parfois aucun pas. C'est un sujet sur lequel vous vous avancez, critiquez parfois l'écologie, alors les éoliennes, mais qui vous valent aussi quelques remarques, quelques courriers acerbes.
Alors les éoliennes, oui, j'ai fait une chronique il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et alors j'ai certaines personnes qui m'ont dit « Bravo, les éoliennes, c'est horrible, on en a ras-le-bol, tout ça. » Puis il y en a d'autres qui sont des défenseurs des éoliennes, ce qui est leur droit plus absolu. Et c'est là où on voit quand même que dans ce pays, on perd quand même le sens et le goût du débat parce qu'on a le droit d'être pour et d'être contre et d'en parler et de partager des idées différentes. C'est ça la démocratie. Or maintenant, c'est « Ah bah alors, vous êtes contre les éoliennes, c'est honteux, c'est pas honteux du tout. » Ça vaut le coup d'en débattre. C'est peut-être très bien en mer parce que c'est moins pénalisant pour les paysages, mais quand je passe sur cette autoroute magnifique qui nous amène à Brive-la-Gaillarde, venant de Clermont-Ferrand, et que je vois cette superbe perspective de la Banne d'Ordanche et du Sancy avec ses éoliennes qui tournent au milieu, c'est pas très gracieux. Je préfère quand même la flèche d'une cathédrale gothique, c'est quand même plus élégant, quoi. Et puis ces avions qui tournent et qui ne décollent jamais, c'est pénible, hein.
Vous aviez d'ailleurs fait une chronique en août 2011 que dans d'autres lieux, votre ami Jean-François Balmer avait lu,
Oui.
qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'un écologiste
Oui.
?» Et vous l'aviez, vous est-ce que vous aviez vous gardez un souvenir de cette chronique qui décrivait et ce qui est probablement encore valable aujourd'hui, ce qu'est un écologiste?
Oui, j'en ai souvenir, bien sûr. Oui, j'avais brossé un portrait robot un peu d'un écologiste, oui. Vous l'avez, non? Vous ne l'avez pas
Non,
en
je l'ai pas.
un...
On l'a pas en son
Oui,
nom.
alors rappelez-la-moi parce que je ne l'ai pas dans le détail.
Non, mais
Non,
je vais
oui.
la retrouver
Oui,
également. Mais
oui.
c'est une thématique que vous explorez également. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de sujet interdit.
Ah non, pas du tout. En plus, les écologistes sont quand même très en pointe, puisqu'on le voit avec Yannick Jadot, qui est crédité quand même pour l'instant d'un pourcentage tout à fait respectable. Et puis, on a eu leur congrès, qui est magnifique, où on a vu arriver des perles en matière d'écologie. Il y a eu d'abord, il y a ce formidable maire de Grenoble, là, qui a un nom de chambre à coucher, qui s'appelle Piolle, et qui a un an à coucher dehors. Et puis, il y a eu, alors, cette perle, moi, je ne la connaissais pas, c'est un bonbon, c'est Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau, qui s'est fendue de ce tweet absolument extraordinaire pour la disparition de Jean-Paul Belmondo, quand elle a tweeté « Je suis très triste de la disparition de Jean-Pierre Belmondo ». Je me suis dit « Boris Delon, à quoi s'inquiéter ?» Et alors, surtout, elle l'a sorti d'un commentaire un peu bizarre et surtout d'une faute de syntaxe, en disant, en espérant que cette ultime cascade n'ait pas été trop difficile. Donc, je me suis dit,
Et tout ça est vrai, hein?
tout ça est vrai. Donc, je me suis dit, cascade, le jour où elle va croiser les enfants de Jean-Paul, elle va leur dire, alors la dernière cascade de papa, c'était bien? Ah ben oui, deux pieds devant dans le cercueil, et puis au revoir. Je me suis dit, quand même, elle est quand même curieuse, cette femme. Et là, elle nous a dit hier qu'elle était blanche et bourgeoise. Bon, elle a dit, il faut que je me déconstruise. Je crois qu'elle est déjà pas mal déconstruite, c'est pas la peine qu'elle en rajoute, quoi.
Finalement, vous n'avez pas besoin d'auteur caché. Tous les textes vous sont livrés clé en main.
Ah ben, c'est ça. On a une matière première qui est quelquefois inépuisable et inespérée. Parce que souvent, nous, on imagine des choses et puis on se dit, mais on est encore en deçà, donc... C'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est que on a toujours la matière première, quoi. C'est contrairement au pétrole, je pense que on en aura toujours.
Est-ce que vous vous interdisez d'aborder certains sujets où pour vous, et parce que c'est écrit par vous, on peut rire de tout?
Alors, on peut rire de tout, bien sûr, mais pas n'importe comment. Je crois qu'il faut quand même prendre certaines dispositions. Il faut éviter de choquer ses lecteurs, ses contemporains. Je veux dire qu'on peut bien sûr rire de tout, mais il faut pas être blessant, il faut pas être infamant, faut pas diffamer les gens. Donc, je crois qu'il y a un certain respect pour ses victimes, pour ses cibles. C'est comme un combat de boxe, il faut respecter les règles. C'est comme un combat d'épée, de fleuret. Il faut y aller avec certaines précautions. Je pense que toute personne dont on parle mérite la considération et le respect. Donc ça, c'est pour moi, c'est le minimum. Et puis, il faut surtout équilibrer ses coups. On ne peut pas toujours taper sur les mêmes. Donc, il faut répartir. Il faut que tout le monde en ait pour son argent, ça me paraît.
Et ce
C'est
qui d'ailleurs,
l'égalité.
en vous côtoyant, j'ai pu constater que les politiques que vous éreintez ou les personnalités publiques, finalement, ne vous envolent jamais. Vous les retrouvez souvent au premier rang au Théâtre des Deux Ânes quand vous produisez un nouveau spectacle.
Oui, alors ça, j'ai découvert ça. C'est mon camarade Jean Amadou qui m'avait appris ça à mes débuts. Il m'avait dit, tu vas voir, les politiques que tu vas le plus vexer, c'est ceux dont tu ne parles jamais. Et il avait raison parce que j'ai vu des politiques très connus parmi le public du théâtre. Et quelquefois, ils viennent nous saluer après dans la loge. Et si vous ne parlez pas de lui, il dit « Alors, et moi, j'existe pas ?» Et donc, il faut qu'on parle d'eux. Et même si on parle d'eux, et quelquefois, de façon un petit peu dure, un peu sévère, ils le prennent bien. Et le premier réflexe qu'ils ont, c'est « Eh ben, dites donc, mon camarade machin, vous le ménagez pas, hein ?» Alors qu'on dit le quart de la moitié de ce qu'on dit sur eux. Mais ils ont cette façon de noyer le truc, quoi. Mais ils sont ravis parce qu'on parle d'eux. Et on en revient toujours au problème de la notoriété. C'est vrai qu'un politique dont on parle pas, électoralement, c'est dur pour lui, quoi.
Vous citiez cette anecdote ce matin autour d'un café où, sans en faire une obsession sur Anne Hidalgo, c'est vraiment une remarque qu'elle vous a faite. Alors, nous sommes fâchés. Vous l'évoquiez ce matin.
Oui, parce que, oui, elle me raconte. Bon, en réalité, elle aime beaucoup qu'on parle d'elle, mais le maire nous a dit qu'elle n'était pas très sportive dans ce genre-là, et on le sait. Elle est d'une grande susceptibilité. Et quand je l'ai rencontrée à la décoration de mon ami Daniel Vaillant, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est un vieux copain de Nivernais, là aussi, un type du terroir que j'aime beaucoup. Elle m'est tombée dessus, elle me dit « Alors je croyais qu'on s'aimait, alors on ne s'aime plus. » Ben, je lui dis « Non, je n'ai rien contre vous. » Je dis « Le problème des politiques, c'est la compétence. » Et je me suis arrêté là. Alors j'ai senti qu'elle n'avait pas apprécié. Ben, bon, voilà. Mais je crois que c'est ça le problème des... Moi, les politiques, je leur pardonne tout, mais quand ils sont compétents, c'est bien, quoi. C'est, quand on a un ministre compétent, on en a eu d'excellents, on peut rien leur... On peut les brocarder, mais à partir du moment où ils font le boulot, c'est bien. Mais malheureusement, il y a des politiques qui ne font pas le boulot. Ils font de l'effet de com', des effets d'annonce, et il ne se passe rien. Madame Hidalgo va vous dire je viens inaugurer la rue machin, on va la refaire complètement. 6 mois après, elle est toujours parfaite. Donc c'est bien de le dire, c'est mieux de le faire.
Est-ce que vous avez le même dosage dans vos chroniques écrites pour La Montagne que dans les spectacles que vous faites au Théâtre des Dozanes ou sur Paris Première? On dit la même chose? Est-ce que l'écriture vous oblige à resserrer un peu le propos?
Ah non, l'écriture, il faut faire attention parce que l'écriture, ça reste. Les écrits restent, je ne sais plus qui disait ça, les paroles s'envolent. Donc, verbalement, on peut dire plus de choses. D'abord, dans un théâtre comme le Théâtre des Deux Ans, qui est un théâtre de chansonniers, qui a 100 ans de tradition chansonnière, on peut dire plein de choses parce que les gens viennent pour ça. Donc, ils sont avertis, ils savent ce qu'ils vont... c'est comme moi quand je vais à la messe le dimanche 11h, d'ailleurs, il ne faut pas que je tarde. Oui. Je sais que je vais écouter un prêtre qui va prêcher les vertus de Jésus-Christ, etc. Donc, je ne vais pas lui reprocher ça. Donc, quand on vient dans un théâtre de chansonnier, on sait que les politiques vont en prendre plein les yeux. Quelquefois, un spectateur qui arrive en retard... On lui dit vous avez été bloqué en douane ou un truc comme ça, ou c'est toujours Colissimo qui marche mal, vous êtes livré en retard, etc. Donc ils savent ce qu'ils vont entendre. Mais dans un journal comme La Montagne, qui est un journal de presse quotidienne régionale, où les gens viennent chercher de l'information, et principalement de l'information locale, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'ils achètent le journal, mais ils ne viennent pas acheter le journal que pour vous. Et ils viennent aussi acheter le journal pour plein d'autres choses. Donc il faut plus mesurer ses propos et les présenter de façon plus courtoise, si j'ose dire. Donc ce n'est pas du tout la même démarche. Je crois que l'art oratoire et l'art écrit n'ont pas du tout les mêmes destinées.
Dans votre livre, il y a un passage émouvant où vous revenez sur vos copains, ceux qui ont accompagné... on va dire ces derniers 30 ans, voire même un peu plus, avec des mots vraiment choisis. Alors, on va en citer quelques-uns. Raymond Devos, Anne-Marie Carrière, Philippe Bouvard, que vous avez encore régulièrement au fil, Maurice Sorgue, Jean-Claude Brialy. C'était des monuments à chaque fois, finalement, que vous avez eu côtoyé et avec qui vous avez partagé des moments agréables.
Oui, ce sont surtout des gens, j'appelle ça des jalons de vie. C'est-à-dire que ça fait partie des gens que vous rencontrez et vous dites « j'ai eu une chance formidable de les rencontrer parce qu'ils m'ont apporté beaucoup, ils m'ont appris beaucoup et tous les gens que vous citez sont dans ce cas-là ». J'ajouterai Pierre Caudou et Jean Garetto, les fameux producteurs de L'Oreille en Coin, qui m'ont appris énormément de choses. Là aussi, j'arrivais sur France Inter, qui était une grande radio d'audience nationale, et je crois qu'il ferait bien de s'en référer aujourd'hui. Ces gens-là, aussi bien Baudrier que Pierre Vigne, qui était le directeur des programmes, avaient dit « Vous adressez à toute la France ». Donc, mesurez vos propos et surtout équilibrez-les, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de cette radio, qui est, comme disait Georges Pompidou, une sorte de voix de la France. Donc, il faut faire attention. Et je pense que tous ces gens, Jean-Claude Brialy, par exemple, était un modèle de vie, un modèle d'humanité, originaire aussi de chez nous, puisqu'il a été élevé à Issoire, en partie. Et il m'a appris la modestie, alors que Brialy était un mondain, on le sait. Il allait à tous les enterrements mondains, Laurent Gérald, Brocard, magnifiquement là-dessus. Mais j'ai découvert, et alors qu'il ne m'a jamais rien dit, qu'il était très ami avec les concierges du théâtre de Clermont, Marinette et Alain, qui sont des gens d'une simplicité formidable et d'une générosité qui était... Quand on arrivait au théâtre de Clermont, si on avait mal à la tête, tout de suite, il y avait une aspirine dans la loge. Si on avait oublié nos boutons de manchette, ils allaient nous les chercher, je ne sais pas où. Enfin, c'était presque des papas et des mamans de remplacement. Et un jour, il me dit, il paraît que tu reçois Alain et Marinette dans ton théâtre. Je dis oui. Il me dit, tu aurais pu me prévenir parce que ce sont mes petits frères. Et alors j'ai appris que Jean-Claude Brialy, le mondain que tout le monde connaissait, allait à toutes les fêtes de la famille, allait aux communions solennelles, au baptême, etc. Et avant qu'il nous quitte, je me rappelle qu'il m'a dit, en sortant un jour des grosses têtes, il m'a dit, tu sais, on risque de se séparer bientôt, tu n'oublieras pas Alain et Marinette. Et ça... c'est des leçons parce que Jean-Claude a toujours été un garçon comme ça. Il venait au théâtre, il voulait absolument payer sa place. Alors j'avais donné des consignes à mes caissières et je disais surtout vous ne faites pas payer Jean-Claude, c'est un ami formidable, plus c'est un confrère, il dirige un théâtre comme le beaucoup plus grand que le mien et prestigieux, et il voulait toujours payer sa place et il ne la payait jamais. Et alors, il venait me voir dans les coulisses, il me dit « Enfin, Jacques, c'est honteux, tu sais qu'on a tous besoin d'argent pour faire marcher nos théâtres, tu veux payer ma place ?» Bon. Et puis un jour, il vient au théâtre, pas très longtemps avant sa disparition, et je vois Jean-Claude Brialy. J'appelle tout de suite ma caissière, je dis « Est-ce que vous avez fait payer la place de Jean-Claude ?» Mais elle me dit « Il est où ?» Ben, je dis « Il est dans la salle. » Alors, après le théâtre, on est allé dîner, et je lui dis « Il paraît que tu as payé ta place ?» Et était venu sous un nom, sous un faux nom et un nom d'emprunt. Et j'avais une caissière un peu rébarbative, vous voyez, qui avait l'air un peu sévère. Et je lui dis, pourquoi t'as fait ça, Jean-Claude ? Et il me dit, ta caissière, elle me fait peur.
Écoutez, merci Jacques pour toutes ces anecdotes. Il y a également un sujet qui est récurrent dans vos chroniques et qu'on retrouve parfaitement dans ce livre, c'est l'importance des moments à table, du casse-croûte, de ces vies de cuisine. C'est quelque chose qui est un élément essentiel du bien-vivre aujourd'hui et que vous savez chroniquer aussi.
Ah oui, ça, j'aime beaucoup la gastronomie, j'aime beaucoup les cuisiniers. Mais les vrais, pas ceux qu'on voit forcément toute la journée à la télé, là aussi, c'est terrible cette télé aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir cette télé, on zappe, on est sur la une, il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas assez de croquant, on passe sur la 3, je trouve ça un peu mou, ça manque de texture, etc., c'est fou. Non, j'aime beaucoup les cuisiniers, c'est des gens admirables, qui ont pratiqué une chose que je respecte et que j'admire et que j'encourage, qui est la transmission du savoir. Et je crois que si on a des grands chefs aujourd'hui, c'est parce que les Paul Bocuse, les Pierre Troisgros, les Bernard Loiseau ont su transmettre leur savoir. Donc c'est des gens formidables et qui défendent le terroir français. Donc j'aime beaucoup ça. Et grâce à Philippe Bouvard, mon cher Philippe, j'ai été admis au fameux Club des 100, qui est un club de gastronomes un peu élitiste, mais c'est très agréable d'en faire partie, parce qu'on goûte des choses assez exceptionnelles. Donc je trouve que c'est vraiment le reflet de notre pays, la gastronomie, il faut au moins qu'on garde ça.
Vous citiez dans une chronique une anecdote concernant un concours de l'omelette à Salaire en 2002. C'est qui est resté à la postérité, finalement.
Oui, parce que ça, c'est la France. C'est notre ami Jean-Luc Petit-Redeau qui a réussi quand même à monter un concours d'omelette à Salers. Je veux dire, concours d'omelette, on ne voit pas ça en Allemagne, hein, je peux vous dire. Concours d'omelette, je suis allé au concours de pâté en croûte à Lyon. Alors, il y a des types, ils dégustent 30 pâtés en croûte, ils sont là. Ah, et là, ça manque de pistache. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gélatine. Qu'est-ce que t'en penses? C'est extraordinaire. Et ils dissertent pendant des heures sur du pâté en croûte. Ça, je trouve que c'est très français. Il faut qu'on le garde. On a peut-être un peu bradé notre filière nucléaire. Celle du pâté en croûte, il faut la garder.
Mais écoutez, Jacques, merci beaucoup. Vous nous avez mis en appétit avant le déjeuner avec ce pâté en croûte.
Mais à Brive, il n'y a pas besoin. Ils ont toujours en appétit à Brive. C'est tellement bon, vous comprenez. Depuis que, quand j'étais à la charrette, j'allais à Souillac et que les braves agriculteurs du coin disaient « Vous prendrez bien un peu de pâté, Jacques ?» Alors le pâté, je lui dis « Bon, le pâté, en Hittite, c'était du foie gras. Ils appellent ça le pâté, ici. » Formidable.
Et merci beaucoup de nous avoir raconté les coulisses de ces pointes d'actu, donc publiées aux éditions de Boré, illustrées par Frédéric Deligne. Et on peut vous retrouver sous la Georges Brassens.
Au stand 23.
Au stand 23. Écoutez, merci beaucoup et à tous bon dimanche.
Merci beaucoup.